Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Qu'est-ce que l'être humain ? Un animal soumis à des pulsions biochimiques irrépressibles, un objet complexe que l'on peut augmenter à loisir, une volonté qui peut maîtriser son animalité et dépasser ses déterminations physiques et biologiques. Question un peu détournée, distanciée pour se poser de fait la vraie question, la question essentielle, qui suis-je en tant qu'humain ? Qu'est-ce qui me constitue comme être humain ? Les développements exponentiels des technologies, la notion d'homme augmenté et le succès du transhumanisme exigent de nous que nous repensions la question de l'homme, que nous tentions de réfléchir à ce qui nous constitue en tant qu'humain. Pour sinon répondre à ces questions, puisqu'elles sont par définition ouvertes sur l'infini, sans réponse définitive, nous sommes en compagnie ce soir de Thierry Magnin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes physicien et théologien, actuellement recteur de l'Université catholique de Lyon, auteur de nombreux ouvrages dans lesquels vous essayez de repenser l'humain, le divin, la vie, le corps, l'âme, l'éthique. En regard des plus récentes avancées scientifiques que vous avez enseignées comme professeur des universités. Parmi ces ouvrages, je ne citerai que les deux derniers, Le scientifique et le théologien en quête d'origine, l'expérience de l'incomplétude chez Desclée de Brouwer, paru en 2015, et le dernier, Penser l'humain au temps de l'homme augmenté, paru chez Albin Michel. Vous écrivez, Thierry Magnin, que tenir un discours global sur l'homme est aujourd'hui impossible. Et en même temps, vous tenez qu'il faut inlassablement chercher et tenter de le penser, cet humain. Encore plus au temps de l'homme augmenté. Alors pourquoi partir de ce point ? Pourquoi nous dire finalement que cette réflexion de l'humain est relancée à cause de ces développements de l'homme augmenté ? Et en quoi la notion de transhumanisme ou d'homme augmenté vous a fait ressentir comme une exigence, voire comme une urgence, de retourner à ces notions fondamentales de la philosophie ou de l'éthique, même si c'est très très difficile de traiter de ces sujets ?
Alors, je pense que de tout temps, hein, l'homme a pensé sa condition, sa situation, qui suis-je, comme vous l'avez rappelé. Donc, cette question ne date pas d'aujourd'hui. Et je pense que les technologies d'aujourd'hui la relancent à leur manière. La fameuse question du lien, de différence entre l'homme et la machine, par exemple, ça c'est des questions qui datent de loin. Elles resurgissent aujourd'hui à travers les potentialités vertigineuses, on peut dire, que les technologies, les technosciences en particulier, donnent à l'homme. Et avec à la fois des fantasmes comme on en connaît dans chaque époque, hein, à la Frankenstein parfois, mais aussi avec de réelles potentialités pour réparer l'humain, pour que la médecine soit de plus en plus performante. Et donc si ces technosciences peuvent nous aider à avoir une médecine de plus en plus performante, qui soit vraiment un soin et qu'elle soit vraiment personnalisée, il ne faut pas s'en priver. Hein. Et bien, est ressorti depuis quelques années ce grand thème de la différence entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Bien sûr, on conçoit facilement l'intérêt des technosciences pour réparer ce qui ne marche plus dans la machinerie humaine, pour employer un mot qui n'est pas joli mais qui est souvent employé. Augmenter les capacités de quelqu'un qui est en bonne santé, évidemment, ça fait reposer des questions. Pourquoi faire ? Réparer, on comprend tout de suite. Augmenter, pourquoi ? Et en même temps, l'homme a toujours essayé d'augmenter ses capacités, c'est ce qu'il a fait, c'est même à la base de beaucoup d'éléments de l'éducation qu'on a tous connus. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus, à part que là, on va augmenter en touchant directement des éléments de sa nature biologique notamment. Donc c'est toute la relation entre l'homme et la machine qui est à repenser aujourd'hui. Et on voit bien que même les fantasmes du transhumanisme, on y reviendra, montrent que cette question, elle n'est pas simplement une question d'éthique, jusqu'où on peut utiliser les technosciences en veillant à ce qu'on augmente vraiment l'humain au sens profond de ce terme, mais elle est aussi, ça nous dit quoi de l'humain ? Est-ce que plus que jamais, l'humain est réduit à une machinerie complexe que la science technologique va pouvoir simuler et dépasser ? Évidemment, ces questions-là, elles sont au cœur et des débats et du sens que nous donnons à notre destinée humaine. On ne peut pas répondre aux grandes questions d'éthique si on ne les situe pas par rapport à une visée de l'être humain. C'est là qu'on va retrouver les grandes traditions de la philosophie, de la théologie, des spiritualités nombreuses d'ailleurs, comme nécessaire, parce que derrière, c'est quand même notre vie quotidienne, c'est nos relations humaines, c'est ce qu'on a envie de construire. Et nous qui sortons là d'une grande campagne présidentielle, eh bien, nous savons combien cette question du sens, elle est vitale et pas évidente.
Oui, absolument. Alors, justement, vous avez parlé réflexion très ancienne du rapport entre l'homme et la machine. Et vous commencez d'ailleurs, les premiers chapitres de votre livre font vraiment l'état des lieux, au fond, de toutes les possibilités déjà existantes ou imminentes à venir, donc dans les technosciences qui nous permettraient de nous augmenter. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans la façon dont vous le présentez, c'est évidemment d'un côté le fait que vous ne soyez pas technophobe, vous êtes vous-même physicien, vous êtes un scientifique, vous n'avez absolument rien contre le progrès scientifique. On y reviendra peut-être parce que peut-être que parfois il faut renoncer au progrès scientifique, mais ça c'est une question que je vous poserai après. Mais en même temps, vous dites que ces progrès technologiques qui nous semblent si multiples et complexes et qu'évidemment le commun des mortels dont je suis a du mal à suivre les ramifications et les complexes constructions, en réalité se repose sur une idée simplifiée de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'exact contraire de la notion, par exemple, de complexité telle qu'elle a été développée par Edgar Morin. Et ça, ça m'a beaucoup frappé parce qu'on le lit assez peu, Thierry Magnin.
Alors, je vous remercie de souligner cet angle d'approche qui, pour moi, est fondamental. Puisque à la fois dans le livre, je vais faire appel à des grands éléments des traditions anthropologiques et philosophiques et théologiques, mais je vais les ancrer en effet sur ce qui peut apparaître comme un paradoxe. Le technoscientifique d'aujourd'hui, et en effet vous l'avez dit, je suis loin d'être technophobe, moi-même je suis membre de l'Académie des technologies, donc ça veut dire que je pense que ces technologies sont fort utiles, mais pas n'importe comment justement. Donc d'un côté vous avez le technoscientifique qui va se focaliser sur les fonctionnalités du vivant, comme les fonctionnalités d'une machine, hein. Et de fait il y a une partie machine en effet, hein. Et d'un autre côté, et en particulier dans les biotechnologies aujourd'hui, hein, les nanobiotechnologies appliquées à l'humain. Et puis d'un autre côté, vous avez le biologiste, non pas le biotechnologiste, mais le biologiste qui, de plus en plus, sur son propre domaine, c'est là la nouveauté, sur son propre domaine, s'aperçoit de la complexité de plus en plus grande du vivant, et en particulier, et c'est là-dessus que j'insiste beaucoup dans mon livre, sur les interactions réciproques, je dis bien réciproques, entre le biologique et le psychique. Autrement dit, il est difficile pour le biologiste de réduire le vivant à ses simples fonctionnalités, même si bien sûr elles existent, puisque ces fonctionnalités vont en effet avoir une influence sur le psychisme, et en retour, le psychisme va avoir une influence sur les fonctionnalités. Alors, il y a des exemples qui sont fabuleux. Quand on regarde l'expression des gènes d'un fœtus porté par sa maman. Non seulement cette expression des gènes est marquée bien sûr par le contexte biologique interne, mais aussi par l'état de stress ou de repos de la maman, sans qu'on puisse comprendre, il faut pas être binaire en disant si la mère est stressée, ça va être négatif pour l'enfant, il faut pas aller trop vite. Mais on voit cette relation dans les deux sens, et en particulier cette relation du psychisme sur l'expression des gènes, ça s'appelle l'épigénétique, d'un mot un peu compliqué, mais sur l'expression des gènes, et l'expression des gènes, c'est quelque chose de très important au niveau biologique. Hein. On voit aussi comment, aujourd'hui, en fonction de l'état mental et de l'état affectif aussi, le système immunologique de l'humain se comporte de manière forte ou affaiblie. Autrement dit, le contexte, le vécu va jouer. Non seulement les fonctionnalités du vivant vont jouer sur le vécu, mais en retour, la manière de vivre, le comportement va jouer sur les fonctionnalités elles-mêmes du vivant. Alors, c'est ce que les psychologues nous disent depuis très longtemps. Donc, en ce sens-là, rien de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que ce sont les biologistes maintenant qui le voient au niveau des réactions biologiques, qui le voient sur leur propre domaine. Et si je veux être un bon biologiste, je ne peux pas faire fi du psychisme.
Et le psychisme, c'est effectivement ce qui a introduit la complexité. C'est-à-dire, si on reste au niveau du pur biologique ou du pur technique, si je veux dire technologique, c'était le sens un peu de ma question, on en reste à une vision extrêmement simplifiée de l'humain. Alors que on est obligé maintenant, même la science elle-même est obligée de prendre en compte ce qui relève de la complexité du psychique. Et encore, pour l'instant, on ne parle que du psychique. On parlera plus tard du spirituel, qui ajoute un degré de complexité encore plus vaste, évidemment.
Alors, voilà, vous avez dit le terme, la prise en compte du psychisme ajoute un degré de complexité. Il y en a déjà beaucoup dans la machinerie vivante, prise sous l'angle des fonctionnalités du vivant. Ça, c'est une des grandes découvertes des sciences du XXe, en particulier du XXe siècle, c'est de montrer que dans un système, qu'il soit d'ailleurs vivant ou inerte, à partir du moment où il y a plus de deux paramètres qui interagissent, eh bien, il y a de la complexité, c'est-à-dire qu'il y a de l'évolution du système. Vous savez, on a cette phrase souvent, il y a plus dans le tout que dans la somme des parties qui constituent le système. Oui, c'est une manière de dire. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi une évolution de ce système. Donc, rien qu'au niveau des fonctionnalités, il y a déjà de la complexité. Mais, en effet, la prise en compte de l'exercice des fonctionnalités, notamment avec le psychisme, eh bien, rajoute un degré de complexité. Et du coup, le technoscientifique qui ne s'intéresserait pas à cet aspect-là simplifie le vivant. Et même, je dirais, c'est un simplisme qui risque là d'être dangereux au nom même de la biologie, si je puis dire, avant même d'en faire un critère anthropologique, si vous voulez. Et c'est ce paradoxe entre le technoscientifique et le biologiste, tous deux faisant bien leur métier. Là, je ne qualifie pas du tout moralement quiconque. Je suppose que les gens font bien leur métier et essayent d'aller au bout de leur... cette rencontre-là, elle est, à mon avis, un des points à partir desquels on peut resituer l'intérêt des technosciences et leurs limites. Et du coup, si on veut servir le vivant, si on veut respecter le vivant, je pense qu'on sera tous d'accord pour respecter sa complexité, y compris dans la dimension psychique. Et c'est mon point de départ qui, celui-là, je pense, doit continuer d'être travaillé, mais peut être partagé, quelles que soient nos options philosophiques ou théologiques.
Du moment qu'on est de bonne, qu'on a une bonne intention, parce que c'est bien le problème. Vous le traitez pas beaucoup parce que c'était pas votre propos et directement, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ça. C'est la question politique qui est absente, mais qui est quand même présente, parce qu'on le sent. Le problème des technosciences, c'est que, comme vous l'avez dit, si c'est pour améliorer si quelqu'un est handicapé et qu'on peut lui retrouver sa fonction, ou quelqu'un qui ne peut plus voir, on peut lui redonner la vue, etc., on comprend très bien l'intérêt, et on comprend très bien que l'intention est une intention, vous l'avez dit, réparatrice, et qu'elle est, orientée vers ce que vous appelez un humanisme. Ce qui m'angoisse personnellement, c'est pas du tout ce que les technosciences peuvent faire, mais l'usage que, évidemment, des gens mal intentionnés pourraient en faire.
Alors, en effet, ce que vous dites, là, il faut pas être naïf, bien entendu. Moi, je traite beaucoup du lien avec les chercheurs en technosciences ou les chercheurs en biologie que je côtoie comme chercheur en éthique moi-même, en co-construction avec eux. Mais bien sûr que je sais très bien que les utilisations et les pensées des utilisateurs ne sont pas toujours bien pures, loin de là. Alors, il y a toujours un danger dans l'utilisation de toutes les technologies par des puissances destructrices. Mais en plus, ça peut donner des fantasmes de toute puissance, justement, de toute puissance. Et c'est beaucoup là-dessus que mon livre porte cette tentation qui est même au-delà de la tentation prométhéenne, d'ailleurs. Et que le côté économique et que le côté pouvoir politique peut démultiplier. Ça, c'est sûr. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense que ça demande aussi une régulation au niveau de l'ONU ou de l'OCDE. C'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne trouve pas trop où et par qui exactement, mais il y a là de véritables dangers. Je suis d'accord que c'est un vrai problème politique, même si je ne l'analyse pas beaucoup dans mon ouvrage parce que j'en ai pas les compétences.
Finalement, vous en parlez de manière oblique, c'est-à-dire peut-être que le premier travail à faire, c'est chacun pour soi-même de réfléchir d'abord à ce que je pense devoir être l'humain, et deuxièmement, à réfléchir à cette tentation de la toute-puissance que nous avons tous. Je crois qu'il faut, ceux qui ne le reconnaissent pas, déjà, ils commencent mal. Je crois qu'il faut vraiment qu'on commence par là, et vous le montrez très bien. Et vous montrez que finalement, le transhumanisme est quelque chose qui va assumer ce fantasme de toute-puissance et dire, bah oui, voilà, j'ai la toute-puissance et je prétends que les technosciences vont me permettre d'avoir la toute-puissance, en tout cas sur mes fonctions organiques, si ce n'est sur le monde. Thierry Magnin.
Voilà, des questions fondamentales, y compris qui portent sur l'humain. Et je suis complètement d'accord avec vous que nous avons tous, et moi aussi bien sûr, la tentation de toute puissance. Alors, pas forcément avec la même ampleur suivant les situations, bien entendu, mais la toute puissance de dominer déjà son collègue, son voisin, son... bien sûr. Hein. Et en même temps, je veux maîtriser pourquoi ? Eh bien voilà, je veux maîtriser souvent pour assouvir ma propre soif de pouvoir. Et donc en effet, ce serait très mal parti de ne pas reconnaître que ça fait partie de l'humain, mais ça se soigne, si je puis dire.
Voilà,
ça fait partie de l'humain, et en effet, de tout temps, et de le reconnaître est déjà une ouverture et pas du tout un état de faiblesse. C'est ça, si vous voulez, que je voudrais dire, c'est que si on veut vivre notre humanité à plein, non seulement, bien sûr, il faut commencer par reconnaître les chances, les talents, les possibilités, le potentiel, ça bien sûr, hein, l'éducateur que je suis est là pour favoriser ça chez les autres et chez soi-même, mais aussi nos limites, et en particulier nos limites de toute puissance qui, en fait, vont se retourner contre l'humain. Hein, c'est ça qu'il faut montrer, à mon avis. Et avec l'exemple du transhumanisme, on le voit bien parce que on s'appuie dans le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est une nébuleuse. Hein, parce qu'il ne faut pas dire les transhumanistes. Il y a des courants extrêmement diversifiés entre Ray Kurzweil et puis Nick Bostrom, déjà. Il y a des nuances, mais... Et il faut en tenir compte. Hein. C'est cette vision qu'avec les technosciences, j'ai entendu cette expression aux États-Unis dans un colloque d'éthique, hein, les technosciences vont sauver l'humain. Vont sauver l'humain. Alors évidemment, pour le théologien que je suis, je leur ai dit, mais sauver, vous savez, ça fait beaucoup. Hein. Bon. et en fait, qu'est-ce qu'ils voulaient dire là-dedans? Ça veut dire que, pour eux, premièrement, c'est souvent un devoir moral d'utiliser les technosciences aujourd'hui pour sortir la condition humaine de ces déterminismes, et en particulier de ces déterminismes qui, d'après eux, la défigurent. Hein. Mais en plus, il s'agit de créer un homme qui va, petit à petit, s'abstraire de ces déterminismes biologiques, qui va sortir, finalement, de ces déterminismes, de sa contingence, on dirait, en philosophie, hein, et qui va devenir un homme tout-puissant, justement, parce qu'il ne pourra, il ne craindra plus aucune limite. Et alors, ça peut aller chez certains, pas chez tous, hein, jusqu'à nier, enfin pas nier, mais dire que les technosciences vont nous sortir de la dernière limite qui a toujours été essentielle pour regarder l'humain, c'est-à-dire la mort. Hein. Et donc, ce fantasme de l'immortalité, il est comme un signe de projeté. Alors, c'est là que je dis que c'est très dangereux, parce que ça nie quelque chose d'essentiel dans l'humain. Et ça, c'est pas nouveau dans la science-fiction, si je puis dire, hein, de penser l'immortalité dans ce sens-là. Mais de dire, vous voyez, le passage, et c'est, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, entre dépasser ses limites, et ça, on a toujours essayé de le faire, et je pense que c'est excellent, hein. Dépasser ses limites, ça veut dire les reconnaître aussi.
Bien sûr.
Hein.
Oui.
Mais entre dépasser ses limites et se penser sans aucune limite et vouloir aucune limite, alors là, il y a un saut que, en effet, pour une part, les technosciences peuvent donner l'illusion qu'on va pouvoir le franchir, et l'illusion à l'intérieur, surtout, qui se transforme en une toute puissance individualiste en plus, réservée à quelques privilégiés en plus, qui me paraît désastreuse, au sens qu'elle va mutiler l'humain. Non seulement le simplifier, comme on disait tout à l'heure, mais mutiler l'humain. Alors du coup, bah voilà, le prototype, ça va être le cyborg, par exemple. Nier la vulnérabilité de l'homme, c'est nier l'homme, quelque part. Et c'est même nier sa croissance et sa possibilité de croissance. Or, justement, dans le transhumanisme, tout ce qui a l'air de toucher à la vulnérabilité fait peur, et on veut s'en abstraire, et l'immortalité est de cet ordre-là. Alors, le biologiste, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que pour qu'un vivant même, c'est vrai du vivant en général et de l'humain en particulier, pour qu'un vivant évolue, si un vivant n'évolue plus, il meurt. Hein. Mmh. Bon. Pour qu'un vivant évolue et qu'il continue de grandir, je dirais, de se déployer, eh bien, il faut qu'il soit marqué profondément par son environnement. Hein, aujourd'hui, on ne peut pas considérer un vivant indépendamment de l'environnement dans lequel il se situe. Hein. Et non seulement l'environnement va agir sur lui, ça on le sait depuis longtemps, mais intrinsèquement le modifier de l'intérieur. Et c'est ça la forme de vulnérabilité en biologie. C'est pas une fragilisation par une maladie. Hein. Mm-hmm. S'il y a une maladie, évidemment, ça va rajouter de la vulnérabilité. Mais même un vivant en très bonne santé, je dirais, et l'expression des gènes dans le fœtus de la maman, c'est un exemple de cela, il se laisse modifier par son environnement biologique, son environnement psychique, hein, et il évolue entre vulnérabilité et robustesse. Or, le transhumanisme, il va tout mettre sur la robustesse.
Alors, vos pages sur la vulnérabilité, justement, ne pouvaient pas manquer de me faire penser à Pascal et au roseau pensant, le plus faible, bien sûr, mais qui pense. Donc, je vous propose, c'est un très court texte, donc je vous propose de vous le lire. Et puis après, peut-être que pourrez nous en donner un commentaire, parce que vous citez abondamment Pascal, que apparemment vous aimez beaucoup, ce que je peux comprendre pour un penseur chrétien qui est à la fois scientifique et chrétien, ce qui était le cas de Pascal. « Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable. Mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, puisqu'il sait qu'il meurt. Et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il nous faut relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale.
Les discussions du soir, Lélie Anvar.
Il m'a semblé, Thierry Magnin, en relisant ce texte, bien sûr, qui nous a occupé longtemps et qui revient sans cesse quand on réfléchit sur l'homme, que quand il parle de l'espace et de la durée, en fait, il parle de ce qui est en jeu dans les technosciences et dans le transhumanisme. C'est-à-dire vraiment, de ce que vous avez dit, j'ai vraiment l'impression que le transhumanisme nous met dans cet espace et cette durée dont Pascal nous dit qu'elles ne sont précisément pas ce qui peuvent permettre à l'homme d'être homme ou à l'humain d'être humain, pour être plus précis.
Alors, je crois que, en effet, et c'est la condition de contingence humaine qui va être reprise là dans cet espace et dans cette durée. Et le texte de Pascal, vous avez bien fait de le sélectionner, parce qu'il dit merveilleusement la même question posée aujourd'hui, à frais complètement nouveau, évidemment, par rapport à l'époque de Pascal, mais c'est la même question. Et c'est d'autant plus fort que Pascal, justement, grand scientifique de son époque, et encore d'ailleurs reconnu comme tel, grand philosophe aussi, voit bien, comme on a essayé de l'expliquer juste précédemment, que il ne faut pas se tromper de ce qui fait la grandeur de l'homme, justement. Et lorsque l'homme va essayer d'habiter l'espace et le temps, si je nie sa contingence, je vais l'empêcher d'habiter l'espace et le temps. Je ne vais pas le rendre surhomme, ou alors ce surhomme va être un sous-homme, en fait. Hein, parce que habiter l'espace et le temps, c'est ça notre condition humaine. Alors, que la science, les technologies nous aident à habiter l'espace et le temps, nous donnent plus de potentialités, nous permettent de vivre plus longtemps, nous permettent d'agir mieux, nous permettent même d'être augmentés dans un certain nombre de nos capacités. Si on peut augmenter le système immunologique de l'humain pour lutter contre les maladies, magnifique. Si on peut augmenter nos capacités cérébrales sans qu'il y ait d'effets secondaires, évidemment, qui vont nous mutiler, magnifique. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher cette augmentation, mais c'est pour habiter l'espace c'est le temps qui nous est imparti, si je puis dire. Hein, et non pas pour se situer dans un autre monde, plein d'illusions, dans un autre monde où finalement la violence va l'emporter. Parce que chez Pascal, il y a aussi cette question-là. Qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Et quand il parle de pensée, hein, c'est pas simplement la pensée rationnelle du scientifique.
C'est pas le cogito
hein,
de Descartes.
Voilà,
seulement.
Hein, c'est, on pense avec le cœur chez Pascal aussi, pas simplement sentimentalement, mais parce que l'amour, justement, l'expérience de la charité, pour employer ce vieux mot qui a pris des rides, mais qui est fantastique parce que c'est l'expérience de l'amour, c'est ça qui fait voir et comprendre, justement. Hein. Et donc, pour ne pas appauvrir l'homme, il s'agit au contraire de lui permettre d'avoir ces capacités-là. Alors, si on le réduit à des simples fonctionnalités, on n'aura plus ces capacités-là. Hein. Et on entendra, du coup, une perfection. Ça aussi, cette thématique est très forte. On vise, avec le transhumanisme, un humain parfait au sens que ses fonctionnalités sont inoxydables, comme on peut dire. Hein. Alors que ce qui va faire, il ne faut pas confondre la perfection, à mon avis, avec les capacités d'évolution, d'adaptation. Et s'il n'y a pas un brin de folie dans l'humain, il n'y a pas d'humain. Mmh. S'il n'y a pas de poète dans notre société, il n'y a pas de société. S'il n'y a pas d'inventeurs géniaux et en même temps un peu fous, il n'y a pas de société. Si nous ne sommes pas capables de rire et de faire preuve d'humour et de sortir des sentiers battus, et si nous sommes toujours dans la perfection de la fonctionnalité, mais nous ne vivons plus, hein. Et si nous sommes dans cette situation-là, nous ne sommes plus vraiment capables d'aimer, parce que pour aimer, il faut une forme de gratuité. Si tout est calculé, hein, lorsque on a ces visions, penser, c'est calculer. Ça, c'est souvent les visions de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui peut jouer des rôles très intéressants et très importants, je ne sais pas. Mais si je réduis la pensée à un calcul... Mais vous vous rendez compte de la capacité limitée que j'aurai relationnellement. Quand relationnellement, je calcule toutes mes relations, alors je peux être un fin stratège, mais je suis pas tellement un humain, quoi. Je suis pas capable d'être surpris, d'être étonné, de me réjouir, de vivre la gratuité. Bah, je perds une grande part de la grandeur de l'homme. Et Pascal, quelque part, qui a fait cette expérience formidable de dire la raison rationnel, hein. C'est très important. Il faut pas l'exclure. Mais en même temps, il faut pas se focaliser uniquement là-dessus, parce que sinon on vit pas profondément. Il est bien placé, lui, le scientifique et le philosophe, pour nous donner des pistes pour utiliser aujourd'hui les technosciences à bon escient, non pas pour limiter l'humain, mais au contraire pour lui donner sa capacité de grandeur. Et dans sa capacité de grandeur, il y a la reconnaissance de ce qu'il appelle le côté misérable, alors qu'il faut traduire pour aujourd'hui.
Le vulnérable.
Le vulnérable, ce qui a besoin de se laisser transformer et qui est en même temps souvent, et c'est là, si vous voulez, que le chrétien que je suis est marqué par ça, parce que saint Paul disait, c'est ce qu'il y a de faible dans le monde qui peut servir de base, justement, pour se laisser transformer. Hein? C'est à partir du moment où on reconnaît nos faiblesses qu'on peut commencer à travailler dessus, ça on le sait. Mais lorsque je suis inoxydable, je vais ne plus être sensible à rien du tout. Hein? Et du coup, je risque de me dessécher. C'est souvent par les côtés de mon existence où je ne suis pas sûr de moi, que du coup, il y a une perméabilité qui est essentiel dans la relation, que ce soit la relation aux autres, que ce soit la relation à Dieu pour les croyants, que ce soit la relation au transcendant, c'est vital pour devenir un humain, quoi.
Oui, mais alors je voudrais aller un peu plus loin dans ce que vous dites, dans le sens où vous dites évidemment, ce n'est plus vivre que de vivre sans sentiments, sans émotions, etc. Mais peut-être que plus important que cela, c'est l'idée qu'il y a quand même deux visions du monde radicalement différentes qui s'y s'opposent, qui ne sont pas seulement liés au qu'est-ce que c'est que vivre dans ce monde et quelle est la meilleure façon de vivre dans ce monde, mais vraiment il y a une ligne de partage à mon avis qui d'ailleurs existe depuis toujours, sauf que là elle est très visible avec cette question du transhumanisme. C'est finalement qu'est-ce qu'une vision d'un côté matérialiste de l'homme, purement, exclusivement matérialiste de l'homme, et de l'autre côté une vision qui évidemment prend en compte la dimension matérielle, mais dont la visée, qui dit que la visée dernière de l'homme, enfin, ou en tout cas, ce qui fait que l'homme est homme, c'est que c'est un être spirituel. Alors, vous êtes un peu, si je puis vous faire un reproche, presque un peu timide là-dessus. C'est-à-dire, vous parlez du psychisme ou éventuellement spirituel, presque comme si notre époque avait du mal à entendre ce mot de spirituel. Or, c'est peut-être ça, c'est peut-être là où il faut aller. Finalement, c'est pas là. L'important n'est pas de savoir si je vais être plus heureux en aimant ou en étant fragile ou en étant fort. L'important, c'est de savoir quelle est ma destinée d'homme. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai à y faire? Est-ce que mon but est spirituel ou est-ce que mon but, c'est juste de m'augmenter matériellement? Thierry Magnin, excusez-moi, je vous pose la question un petit peu brutalement.
Vous avez bien raison. Alors, voilà. D'ailleurs, ça reprend la dernière partie de mon livre, hein, qui s'intéresse à quelles sont les formes d'anthropologie, hein, comment voir l'homme, justement, pour poser l'utilisation des sciences et des technologies aujourd'hui, des technosciences, d'une manière qui soit au service de l'humain, justement, non pas pour le simplifier ou le mutiler, mais au contraire pour l'aider dans ses trois dimensions. Corps, âme, esprit, hein. Et je rajoute corps, âme, esprit dans les écosystèmes dans lesquels nous sommes situés. Alors, je m'appuie là-dessus sur deux choses. Je m'appuie sur l'anthropologie que l'on retrouve chez Saint-Paul et que l'on retrouve chez Saint-Irénée de Lyon.
Donc oui, le que Lyonnais vous aimez particulièrement.
Ne se refait pas. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est un Lyonnais, entre guillemets, si je puis dire, qui vient d'Asie mineure, hein, qui est né à Smyrne, dans la Turquie d'aujourd'hui. Donc, c'est une belle alliance Saint-Irénée entre l'Orient et l'Occident. Et je pense qu'on en a besoin plus que jamais aujourd'hui, y compris pour travailler sur l'humain. Hein. Et déjà au IIe siècle, après Jésus-Christ, il disait déjà qu'est-ce que c'est l'homme ? C'est l'enchevêtrement, l'union et le mélange de ces trois dimensions corps, âme, esprit. Il disait déjà ça. Ces trois dimensions sont enchevêtrées. Hein, la chair même, il parle de la chair. Hein, donc qui est le corps de l'homme, mais qui n'est pas tout l'homme. L'âme, on dirait aujourd'hui le psychosocial, si vous voulez, la dimension psychosociale qui comprend aussi l'intelligence, qui comprend la raison, bien, et qui est évidemment une part importante de l'homme, mais qui n'est pas tout l'homme. Et le spirituel, qui est, comme disent les moines, la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire là où Dieu parle à l'homme. Alors après, chacun mettra sous le mot Dieu ce qu'il ressent et ce qui lui convient, mais là où la transcendance vient rejoindre l'humain. Hein. Et il dit, c'est le mélange et l'union de ces trois dimensions. Alors, ce que j'ai voulu mettre en évidence dans mon livre, non pas comme une démonstration, mais comme un signe, c'est que, comme un chemin, c'est encore mieux, où il y a des signes sur le chemin, justement, on n'est pas perdu, et en même temps, c'est à chacun de l'inventer aussi, je n'irai pas à dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas, mais en même temps, il y a des signes intéressants, c'est que justement, le biologiste d'aujourd'hui, comme on l'a développé dans la première partie de cette émission, contrairement au technoscientifique, il est obligé de s'intéresser au psychisme, et y compris au spirituel, hein, puisqu'aujourd'hui, on fait des expériences sur des moines en méditation et regarde ce qui se passe dans leur cerveau et on voit que l'influence de la méditation, d'abord on voit quand la méditation est profonde ou pas, suivant les aires cérébrales qui s'allument, comme on dit.
On ne peut plus tromper personne.
Ah non, bientôt on vous dira vos distractions pendant la prière. Bon. Et puis on voit aussi que cette pratique régulière de la méditation, elle a une influence sur le remodelage du cerveau, sur la plasticité cérébrale, là aussi forme de vulnérabilité, comme tout à l'heure, entre le biologique et le psychisme. Mais là, c'est l'action spirituelle qui, elle aussi, intervient, y compris sur le remodelage de notre cerveau. Donc, je trouve très intéressant de voir corps, âme, esprit sur le terrain des sciences d'aujourd'hui, que ce soit la biologie, les neurosciences, et de remettre ça en perspective de corps, âme, esprit dans les grandes traditions, et en particulier celle de Saint-Irénée, qui évidemment ignorait tout des technosciences et des neurosciences à son époque, pour dire, ben voilà, nous avons ici des bases extrêmement importantes. Et en effet, à l'époque où on voit bien que les animaux ont aussi des formes de psychisme qui peuvent être bien plus élaborées que ce que nous pensions précédemment. Hein, lorsque j'étais petit, on me disait la différence entre un animal et un homme, c'est que l'animal, il a un instinct et l'homme, il a une intelligence. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. On va beaucoup plus profondément. Et en effet, la fine pointe de l'âme, et ça représente des éléments que disait Pascal tout à l'heure dans la citation, la fine pointe de l'âme, cette dimension spirituelle de l'être humain, devient quelque chose de spécifique, mais que je ne couperai pas de son enracinement biologique et de son enracinement psychique, voyez, et de son enracinement corporel, biologique même. Hein, tout cela est enchevêtré, le dualisme nous a joué trop de mauvais pièges, à mon avis. Hein. Aujourd'hui, cette vision tripartite est enchevêtrée. En effet, ma vie spirituelle, elle est marquée par mon psychisme et par ma biologie. Bien sûr. Et en ce sens-là, je ne peux pas prétendre à la vérité absolue. Bien sûr. En retour, mon psychisme et ma spiritualité modifient mon corps et ma chair, hein, si je puis dire. Donc tout cela est enchevêtré. Et ce qui va faire en effet la spécificité de l'humain, c'est pas tant ses capacités, justement, ses potentialités physiques que les transhumanistes pensent comme être le nec plus ultra. C'est sa capacité d'évolution, sa capacité spirituelle, sa capacité d'aimer, sa capacité d'ingéniosité et sa capacité finalement de construire un bien commun. Hein, là, je reviens aux questions d'éthique, qui vaille le coup d'être vécu, hein, et qui prenne en compte tout le monde dans la diversité de notre société d'aujourd'hui. Je crois que j'ai indiqué aussi dans mon livre quelque chose qui m'a bouleversé personnellement dans ma vie, et qui a l'air d'être aux antipodes des potentialités des technosciences, c'est l'expérience des soins palliatifs.
Oui. Hein Vous citez d'ailleurs aussi Jean Vanier avec son expérience avec les handicapés, qui rejoint la vôtre, en fait.
Et si vous voulez, voilà, tout à fait. Là, on prend soin, c'est assez formidable. On est en fin de vie et on essaye de prendre soin de la personne humaine, justement dans sa globalité, corps, âme, esprit. Dans son environnement, bien entendu, familial, culturel, etc. Et quelle n'a pas été ma surprise quand un jour, des responsables de l'unité de soins palliatifs à Saint-Étienne à l'époque, puis à Toulouse ensuite, m'ont demandé de venir travailler avec eux justement sur les relations entre corps et esprit, et en particulier entre psychisme et vie spirituelle, en disant... On accompagne les malades ou les patients en fin de vie au niveau corporel, bien entendu, ça c'est la médecine classique, au niveau psychique, ça c'est les psychologues. Et puis on voit bien qu'il y a une troisième dimension, ce qui interfère avec le psychisme, mais qui a l'air différente, le spirituel, on comprend pas trop, est-ce que vous viendriez pas nous aider là-dedans? Et c'était expérimental et pour la nécessité du soin. C'était pas simplement une recherche philosophique comme ça dans son coin. Vous vous rendez compte, cette proposition-là, elle est formidable. Ça veut dire que les gens qui accompagnent en fin de vie, ils voient expérimentalement qu'il y a une dimension spirituelle qui est propre à l'humain. Ils ont envie d'en prendre soin. Et ils voient bien aussi qu'elle est intimement liée au corporel et au psychique. Hein, et qu'il s'agit de vivre un accompagnement ensemble, en respectant tout à fait la médecine qui va soulager les douleurs physiques, qui va au moins essayer de le faire, en respectant profondément les psychologues qui vont travailler au niveau psychique, et en ayant cette dimension de la vie spirituelle. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que ça marche pas dans tous les coups, hein, bien entendu. Mais on peut voir des gens qui rentrent dans les unités de soins palliatifs, qui sont vraiment, comme on dit, à bout, et qui parfois même demandent l'euthanasie. Et puis, grâce à cet accompagnement tripartite, vont être vivants de manière extraordinaire jusqu'au bout. Alors évidemment, on ne cherche pas la performance biologique, là, comme avec le transhumanisme. On cherche à soulager la douleur physique, c'est déjà pas mal, hein. Mais en même temps, vous avez des gens lumineux au dernier souffle. Alors, encore une fois, ce n'est pas systématique et c'est pas si facile que ça, hein. Mais c'est assez formidable. Ces gens, aussi bien les patients que les personnels des unités de soins palliatifs qui m'avaient demandé de venir travailler avec eux, m'ont appris corps, âme, esprit en acte auprès du plus démuni, du plus misérable, pour reprendre l'expression de Pascal, d'une beauté humaine qui parfois moi m'a fait dire eh bien, écoute, toi qui es en bonne santé, tu as encore bien du boulot pour grandir dans cette beauté.
Oui, alors justement Thierry Magnien, en même temps, le théologien que vous êtes ne peut pas nier qu'il y a une grande distance entre une vision de la vie humaine comme s'arrêtant à cette mort, même si on prend en compte les trois dimensions, mais si on les prend en compte que dans le temps de cette vie, c'est quand même très différent, et vous qui êtes théologien le savez mieux que moi, que de partir d'une définition de l'humain qui est que l'humain est immortel, mais alors dans sa dimension spirituelle, même si cette dimension spirituelle emporte avec elle les empreintes de cette vie qu'elle a menée. Et c'est peut-être ça aussi, la conception de la vie est radicalement différente chez les transhumanistes et par exemple vous, parce que la conception de la mort est radicalement différente. Oui. Vous pensez que ce qui perdure de l'humain perdure quand même, ce qui fait l'humain perdure. Et je voudrais qu'on finisse cette émission sur ça. Finalement, est-ce que la définition de l'humain, c'est pas au-delà de cette question tripartite dont vous avez parlé, avec laquelle je suis d'accord, c'est que quand même l'humain, c'est quelque chose qui dépasse infiniment le temps d'une vie, et le temps, et le corps, et même le psychisme, et toutes les performances qu'il a pu avoir.
Complètement d'accord. Hein. Si j'ai voulu insister sur ces dimensions corps-âme-esprit, c'était pour dire voilà une toile de fond pour utiliser les technosciences aujourd'hui. Est-ce que les technosciences vont permettre une harmonie croissante corps-âme-esprit ou pas? Et pour moi, c'est vraiment un critère d'utilisation au service de l'humain. En effet, comme chrétien, et il y en aurait d'autres dans d'autres religions, bien entendu, qui diraient ça, je crois aussi à l'immortalité, mais d'une manière totalement différente du transhumanisme.
Voilà. Hein.
Je crois que la mort est une réalité et qu'il ne s'agit pas de la nier, alors qu'on lutte pour vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Alors ça, bien entendu, c'est un devoir aussi. Hein. Mais je crois que la mort est un passage devant lequel personne n'est fort. Hein. C'est, voilà, bien entendu. Mais en même temps, c'est un passage. Et je crois en effet que nous sommes faits pour l'immortalité, y compris corps, âme, esprit, sous une forme autre que je ne me lancerai pas à décrire, évidemment, parce que je ne pourrais pas le savoir. Mais que tout ce que nous sommes, qui justement est ancré dans notre corps, notre époque aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup au corps, pas simplement à la plastique, mais à tout ce qui est ancré, engrammé dans notre corps de toute notre vie. Notre corps, c'est pas que de la biologie, bien entendu, loin de là, qui est engrammé dans notre psychisme, qui est engrammé dans notre vie spirituelle, si je puis dire, ce que nous sommes au plus profond, dans notre unicité, dans notre beauté intérieure, finalement. Chaque être humain, même celui qui est emprisonné, il a une beauté intérieure, et c'est ça qui donne de la vie, et c'est ça qui nous réjouit dans les relations. C'est quand d'autres nous aident à vivre notre propre beauté intérieure, et que nous-mêmes, on les aide aussi à l'exprimer. Hein. Je crois que ça ne peut pas mourir, et que, voilà, ce Dieu d'amour qui nous a créés, dans la liberté de pouvoir être, y compris transhumaniste, si je puis dire, eh bien, il nous appelle par ce biais-là, par ce bout-là. Et quand je vois en effet un Jean Vanier qui nous dit qu'il a appris la vraie vie, lui, un grand philosophe, qui aurait pu avoir une carrière de philosophe monumentale, hein, qu'il a appris la vraie vie en cheminant pas 25 minutes ou 25 jours, mais des années et des années avec des personnes handicapées physiques, parfois moteurs cérébrales, et que là, il a appris la vraie vie dans une vulnérabilité, bien sûr, très, très forte, je me dis, mais ça ne peut pas mourir. Ça, c'est le fond. Hein. Et finalement, je crois en un Dieu qui a expérimenté cette vulnérabilité à un point révolutionnaire. D'ailleurs, tellement révolutionnaire qu'on ne pouvait pas croire que Dieu soit mort sur une croix. Alors, ressuscité, oui, bien sûr, mais que le Fils de Dieu, Jésus, soit mort sur une croix entre deux bandits, ça, c'est inimaginable, cela. Et c'est en effet inimaginable, et pour notre propre raison, on peut dire, mais non, c'est fou. Eh bien, justement, c'est ce qu'il y a de fou dans le monde qui est choisi pour révéler quelque chose qui va bien au-delà d'un corps âme-esprit que les transhumanistes prendraient à leur compte grâce aux technologies et aux technosciences. Les technosciences ne sauvent pas l'humain. Ce qui sauve l'humain, c'est sa capacité d'aimer et d'être en relation avec Dieu. Ça le sauve au sens que ça lui donne toute sa grandeur et tout son esprit.
Ben, merci beaucoup Thierry Magnin d'être venu nous parler de ce chemin d'humanité qui passe chez vous par aussi bien la science, la philosophie que la spiritualité. Je rappelle les titres de vos deux derniers ouvrages, Le scientifique et le théologien en quête d'origine, L'expérience de l'incomplétude chez Desclée de Brouwer, et le dernier donc, Penser l'humain au temps de l'homme augmenté aux éditions Albin Michel. C'était les discussions du soir par Lily Envar, attaché de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Philippe Mercher. Excellente fin de soirée à tous.